une série de techniques à faire pour y résister. Première technique, c'est dire Shema Israël. Étudier la Torah. Dire Shema Israël. S'imagine le jour de la mort. Et si on ne se retient pas, alors au moins, le péché, on va payer pour ça. Il reste interdit. Mais au moins, fais le pas en public, en faisant Chilou Hashem. Cache-toi, maquille-toi et va le faire en cachette, c'est tout. Tu payeras une amende salée, mais que pour ça, pas pour Chilou Hashem.
On n'a pas le droit de dire, par exemple, je fais une semaine, je retombe complètement et après je deviens un tzadik
gamour. Qu'est-ce que tu penses? On a le droit?
Ouais, mais si jamais après on sait qu'on va être diplômé qu'on est maintenant actuellement.
Regarde, quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de faire ce qui est contraire à Hachem. Il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, un conseil, c'est marqué. Celui qui dit Ertav Hachou Ertav Hachou, je vais pêcher après je fais Tshuva, on l'empêche de faire Tshuva. Quand on fait le mal, ça attire sur nous un souffle de Touma qui nous pousse à refaire cette chose-là encore et encore et encore. On ne veut pas s'arrêter. Tu sais, c'est quoi les drogués, d'accord? Ils disent, je peux arrêter quand je veux. Arrête maintenant. Je ne peux pas. Et des fois, 20 ans, ils continuent comme ça. Je peux arrêter quand je veux. Tu parles. Tu dis, une semaine, je vais m'éclater. Après, tu peux revenir faire choix et t'arrêter pour toujours. Au contraire, tu as encore plus l'appétit. La ta'ava, l'envie, c'est un truc terrible. C'est un truc terrible. Ça donne un peu de plaisir sur place. Après, ça t'attache comme ça, ça te tient au cou. Un médecin, il donne un exemple qui est insuffisant au niveau de la gravité, mais c'est un exemple qui est vrai sur le principe. Il dit, c'est comme t'as froid. T'es dans la rue, il pleut, c'est tout coup, il y a une couche de goudron chaud. Tu te mets dessus, c'est bon. Ah, tu veux te relever, tu peux pas, t'es collé. Ça, c'est la table. Et c'est pour tout, les petits trucs de rien du tout. Le sucre dans le thé. Essaye sans sucre, c'est dur 2-3 jours, après t'as plus envie de sucre. Tu recommences à en mettre un peu, tu peux plus t'en passer. C'est déjà une tava le sucre. Les femmes, chez Mirachem. Chazal on dit, il y a un petit organe chez l'homme, celui qui le rassasie, il est affamé. Celui qui l'affame, il est rassasié. T'as compris? Le roi David est tombé dans le panneau. Le roi David, Dieu lui a dit... Roi David a demandé à Dieu, pourquoi est-ce qu'on est éloqué Abraham, éloqué Israël, éloqué Yaakov? Quand on est éloqué David, il dit, eux on les a éprouvés, toi pas. Je veux aussi être éprouvé, tu tiendras pas le coup. Essaye. Hachem lui dit, essaye. David lui dit, essaye quand même. Bon, je t'éprouve, et je te dis même qui, comment et quand. Aujourd'hui avec une femme. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme à 40 000 tours, et lui encore pour être certain, il s'est dit, pour me calmer, je vais prendre deux. Il avait 18 femmes, bien Inara. Enfin, peu, c'est marqué, il peut pas prendre beaucoup de femmes, donc c'est un minimum de 18. Il a pris une de ses femmes, il y a une relation. Il s'est dit, maintenant je suis calmé. Chazal dit, il a oublié le principe, il y a un petit organe, celui qui le rassasie, il est affamé. Il est encore plus affamé après. Affamé! Affamé! La ta'ava, c'est un esclavage, un asservissement. Maintenant, il veut te faire tomber dans le panneau, il te fait voir des tas de trucs, des machins, et tu t'en peux plus. Et vas-y, juste un petit peu, après ça ira. Ch'touillotte, bêtise. Bêtise. Oui.
On ne dit pas que les Israël, ils sont partis en esclavage en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce qu'en Égypte, ils étaient au 49e degré de Touma. Et donc, le fait qu'ils étaient au 49e degré de Touma, pour quand ils sortent les Israël. Alors, ils arrivent au 49e degré de pureté.
Oui.
Alors, voilà. Donc, peut-être pour pouvoir, après, remonter encore mieux.
Le principe est le suivant. Le principe est le suivant. Hachem, il veut de nous un job sur Terre. Donc, il nous met dans une situation d'épreuve. Et on doit s'en sortir. Mais je n'ai pas le droit, moi, de me mettre en situation. C'est son épreuve. C'est ce qu'a fait David. David, il s'est planté. Hachem lui a dit, non, je veux quand même. Bon, vas-y, boum. On n'a pas le droit, nous. Si nous, on se met en situation d'épreuve, on fait une grande avéra. Rien que ça, déjà, on mérite que de même qu'on aurait pu tenir normalement, déjà, vu qu'on se met en situation d'épreuve, Hachem, exprès, il nous donne un yetzera terrible, plus grand qu'on ne peut pas tenir. Ken.
Quand vous dites, on nous donne à manger et on est rassasié. On est affamé.
Oui.
Donc ça veut dire que c'est plus dur de parler d'autres femmes ou de pas aller avec des femmes une fois qu'on est marié.
J'ai pas compris la question.
Est-ce que c'est plus dur de pas aller?
Oui, c'est plus dur d'être. C'est plus dur. Alors, regarde, tout dépend comment t'es en tant que non marié. en tant que non-marié, il y a deux sortes de non-mariés. Tu as un qui est loin de toute idée de pensée de femme. C'est rare pour les Français, ils sont tous la tête farcie par des chemichements, d'accord. Mais un type qui, tu prends un Yeshua d'Israël, un type normal, d'accord, qui n'a pas interne ces machins-là, il est propre. Nagmar, il ne sait même pas ce que c'est, ça ne l'intéresse pas, il fait pas. Il n'est pas, harcelé par cela. Et quand il connaît tout à coup ça, c'est un nouveau plaisir, et le plaisir amène l'envie du plaisir. Donc il est plus en danger, effectivement. D'un côté, physiquement, il est plus rassasié. D'un côté, physiquement, il a des besoins moindres. Mais au niveau psychologique, la ta'ava fait que. Maintenant, s'il se sanctifie beaucoup dans le cadre du mariage, alors la ta'ava, elle reste petite. Sinon, et on est libre dans le mariage de ne pas se sanctifier, c'est faux. En cela, la personne, elle est libre dans sa vie conjugale d'être se sanctifier ou pas. Alors, elle dit qu'il faut se sanctifier, mais tu ne fais pas d'interdit grave, enfin, tu ne fais pas un interdit de carette ou chose pareille si tu ne te sanctifies pas avec ta femme. Quand il ne se sanctifie pas avec sa femme, il va réveiller en lui ces pulsions-là et peut arriver à n'importe quoi. Et il arrive à n'importe quoi. Comme tous les poskim, le Ramban, le Messadisharim, me disent du permis, où il arrivera à l'interdit. Interdit, ça peut être la voisine, ça peut être regarder la voisine, penser à la voisine, c'est déjà interdit. Alors qu'avant, il était propre. Bon, t'as le contraire. T'as le tuyau de la yeshiva déjà, il a la tête farcie. D'accord ? Farcie. Il se marie, ça peut le calmer. S'il se sanctifie.
De quoi s'il se sanctifie ?
Avant le mariage, tu reçois une formation. Mais comment se sentir avec sa femme ? Tu vas apaiser tes fonctions physiques. Mais tu vas réveiller ton envie de plaisir. Là, il y a un travail. Kudoshim, tiyu, kikadoshani Hashem. Bon, c'est un degré, hein. Je ne vous parle pas maintenant de. Kudoshim, tiyu, kikadoshani Hashem. C'est ça, il faut se sanctifier.
Pourtant, ils n'ont rien connu, ils n'ont rien vécu.
Bien sûr qu'ils ont connu, bien sûr qu'ils ont vécu. C'est quand il a un Torah, pourquoi il irait voir à côté? Ils commencent à lorgner. Et hop, et machin, et truc, et hop. Et c'est évident.
C'est une question de
Yirat Shamayim. Le Chinuch aussi. Si sa mère se balade à moitié nue dans la maison, le gosse, ça agit dans sa tête, hein, c'est normal. Ses sœurs, ses trucs, ses voisines, où il habite, enfin voilà, c'est le contexte. Le contexte social, le contexte, le background éducatif, et la hiérarchie même de la personne.
On peut travailler maintenant, quand on n'est pas pro, pour pouvoir quand on a envie de couple, c'est plus facile.
Se sentir au maximum, moins de avérotes. Plus tu fais d'avérotes, plus tu penses à ces choses-là, plus tu attires sur toi un souffle mauvais. C'est quoi un souffle? Comme son nom l'indique, il souffle. Attends, c'est pas moi qui vais comme ça, c'est un ouragan de 200 km/h, tu comprends? Donc tu dis non, et t'es poussé comme ça, il faut se retenir comme un fou, c'est ça. Maintenant, quand tu te retiens, tu attires sur toi un souffle de lumière, un souffle de pureté qui te sanctifie énormément, qui te donne le bonheur dans la mazé ou la mabal. Et c'est là, il paye tout de suite, peu. Et après, c'est amer. Amer. On ne se rend pas compte à quel point, quand on succombe un peu après, l'asservissement, il est énorme. C'est bête, mais on est crétin.
Et quand on s'est retenu une fois, et la deuxième fois on est tombé, est-ce que le souffle qu'on a réussi à avoir de Kiddusha,
est-ce qu'il reste ou il passe?
Ou il se fait annuler par un deuxième?
Je ne pense pas comme ça que ça se passe, c'est que tu descends moins. Tu as moins d'attirance, le Yézara a moins d'impact sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un niveau. Quand, en Kdusha, t'es en Touma, t'es monté, t'es redescendu, alors t'es descendu de ça par le péché. Si t'étais là, tu serais descendu encore plus bas. Donc t'es moins grave. Il y a un rabbin très connu qui s'appelait Mor Ukva. Bon. Il y avait un. La Gemara l'appelle le fils de Batia, Ben Batia. Rashi explique pourquoi. Parce que c'est que le fils de Batia, c'est mon cher Abbé, non? Parce que son visage était rayonnant comme celui de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand les Israël ont péché au veau d'or, il ne pouvait plus voir sa face. Donc il cachait sa face. Avant, ils pouvaient, ils étaient au même niveau. Une fois qu'ils ont péché, ils ne pouvaient plus voir sa face. Ils rayonnaient. Pourquoi ils rayonnaient tellement? Mor Ukva est tombé amoureux d'une femme mariée. Lo alechem, Dieu nous en préserve. Elle fait une dépression. Ou elle, ou je meurs. et le prophète se soigne aux antidépresseurs. Quelques mois plus tard, la femme mariée tape à la porte et dit, écoutez, on est en situation financière très très difficile, si vous avez de l'argent, est-ce qu'on peut vous faire un prêt? On peut vous faire un emprunt. Il nous faut 5000 euros, on vous les rend 100 euros par mois pendant quelques années. Lui, à l'argent, il n'a aucun problème. Il dit oui, mais vous savez que c'est une femme qui est très belle et machin, tout ça, il lui fait la cour. Voilà, vous acceptez, je vous donne 10 000 euros déjà, sur 20 ans. Mais je ne peux pas, mais qui... écoutez, sinon, c'est les huissiers. Hein. Bon, elle accepte. La histoire. À ce moment, Rukva, il a, je ne sais pas, un trou à vote, hein, quelque chose, il dit, non. Allez-y, je vous donne l'argent, pas besoin, c'est bon. À cette seconde-là, il est sorti de sa dépression. Et il a reçu une colonne de lumière sur lui. Quand il allait dans le marché, les gens voyaient ça sur lui. Et Rachid dit, il n'y a pas de mitzvah plus grand que de retenir d'une avéra. Maintenant, quand il y a la lumière qui vient, qui s'embête, les forces obscures, elles n'aiment pas la lumière. Ça les dérange. Elles vont tout faire pour le faire tomber. Donc il y a une bataille. Et si on tient bon, quelques temps, c'est une habitude à prendre, c'est marqué 40 jours. 40 jours, c'est le temps d'habitude. Tu tiens bon, normalement après c'est fini. Il te lâche, en tout cas, t'as une protection. T'es toujours libre de la perdre, mais tu peux faire, c'est plus facile. C'est comme le décollage, d'accord? Un avion, il décolle, après, il a la vitesse de croisière, décollage qui est dur. T'arrives à ta vitesse de croisière, c'est bon, de temps en temps, un petit coup de moteur pour continuer, mais c'est pas la force du décollage. Donc, faut investir un peu pendant un certain temps, et après, on est heureux. On a maîtrisé le Yetzer. C'est marqué qu'à la fin des temps, Hachem, il va égorger les Sahara. Les tzadikim vont pleurer et les rechaïm vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer, ils vont dire comment on a réussi à franchir une montagne pareille. Chaque effort qu'on a fait. Les rechaïm vont pleurer, comment est-ce qu'on n'a pas réussi à franchir un cheveu aussi fin. C'est pas grand chose. Quand on a réussi, on a l'impression qu'on a franchi quelque chose d'énorme. C'est une montagne que j'ai vaincue. En soi, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que s'il y a un effort à faire.
Pourtant, on a tendance à croire que c'est le contraire. On a
l'illusion
sur l'épreuve, ben,
oui.
C'est une montagne,
ouais.
Et qu'en fait, quand on est derrière l'épreuve, ben, c'est un cheveu.
C'est un cheveu, c'est vrai. Ça, c'est au niveau de l'impression. Au niveau de la raison, quand tu es devant, tu n'as plus les tzara maintenant. Et tu vois ce que tu as raté, d'accord? On en parle dans l'amaba. Tu regardes ta vie en arrière. Tu dis, j'avais un tzara. Regarde-toi aujourd'hui, voilà. Tu regardes, tu as fait une bêtise il y a 5 ans. Le plaisir de la bêtise, tu ne le ressens plus. Tu dis, mais c'était idiot, j'aurais pu facilement me retenir, qu'est-ce que j'ai gagné de ça? C'est une bêtise, alors, qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Rien, que de l'amertume, du regret, un esclavage, etc. Si j'avais vaincu, je me souviens de la bataille que j'ai eue, extraordinaire, c'était dur, mais j'ai réussi, ça a l'air d'une montagne. Tu comprends ce que je réponds? Toi, tu parles au niveau sentimental quand tu es face à l'épreuve. Ouais, face à l'épreuve, ça a l'air d'une montagne. Et après, bon, ça va, c'était pas trop dur. Mais après, rationnellement, tu prends le regard non sentimental, c'est comme ça. On va faire tchouba, Bertachet. Oui.
Des fois, on
ne
sait pas ce
qui
est vraiment les
tzara. On va voir où on fait du moussard, qui nous indique très bien ce qui est juste, ce qui est faux. On va voir un rabbin qui dira tout de suite si c'est faux ou vrai, parce qu'il a déjà plus d'expérience que toi. Et si le rabbin ne sait pas, on va voir un grand rabbin. Des fois, nous aussi, on ne sait pas ce qui est juste ou pas. Alors, les gdolim, ils sont... C'est pour ça qu'ils sont là. Ils diront tout de suite. Le vrai problème, c'est que le type, quand on lui dit, il n'y croit pas. Parce qu'il y a un travail aussi, maintenant, d'arna au gdolim, de se subordonner au gdolim.
Par rapport à ça... quand on va avoir un gdolim qui nous demande quelque chose,
un gadol,
à
oui.
Gauche ou à droite,
oui.
D'aller à droite.
Oui.
Au moment précis, on nous dit d'aller à droite. Là, il faut aller à droite.
J'ai rien compris.
Au moment précis, on nous dit d'aller à droite.
Oui.
Bah, faut aller à droite.
Oui.
D'accord. Mais en même temps, il a le roi Hakodesh, mais ça ne veut pas dire.
Non. Excuse-moi, je ne
connais pas l'avenir.
Non.
C'est-à-dire que peut-être que
c'est à gauche. Non, la question elle est mal formulée. On ne va pas chez un gadol parce qu'il a le roi Hakodesh. En aucun cas. C'est archi faux et archi faux. On va un gadol parce que c'est un gadol en Torah. Et lui, il tranche d'après la Torah, et c'est bien plus haut que Ruach HaKodesh. Tu ne verras jamais dans la Torah qu'on a demandé les questions aux grands d'après le Ruach HaKodesh. Jamais. À l'époque des prophètes, c'est différent d'un prophète. En fait, c'est un prophète. Sinon, jamais. Regardez les grands en Torah.
Mais là, je ne comprends pas. Vous dites, c'est la Torah. Il respire la Torah.
Ouais.
Et c'est la parole de Dieu qui sort. Mais
ouais.
Pourquoi Ruach HaKodesh alors?
Voir quand...
C'est voir des images, voir
oui.
Des anges autour des gens.
Non, c'est une clairvoyance. On voit des choses dans le futur, des choses, on voit des lumières, des choses comme ça.
Mais pour voir HaKodesh, il n'est pas en fonction du niveau de Torah.
Non.
Pas dans un certain
niveau. Non, il vient au niveau de sainteté. Pour avoir un niveau de sainteté, il faut aussi un niveau de Torah, c'est clair. Mais c'est une question de sainteté. D'accord ?
C'est-à-dire que le Rav Shemen, il ne serait pas assez saint.
Peut-être qu'il a voir HaKodesh. Regarde le Rav Shach. Okay, avant le Rav Shemen, c'est le Rav Shach, d'accord ? On n'a jamais connu pour Ruach HaKodesh. Il n'a jamais tranché, jamais ça. Mais c'est clair qu'il avait. C'est clair qu'il avait. Le Rav Chazan, ici, m'a raconté. Sa grand-mère était malade en Corse, les Corses d'origine. Son père habitait Bnei Brak. Il est très proche du Rav Shach. Et le Rav Shach lui a dit... Et une fois, sa grand-mère était très malade, ils ont prié, etc. Et bon, le Rav Shach a prié, elle a guéri. Un ou deux ans plus tard, le Rav Shach demande, aide-moi et ta mère. Oh, Hachem, ça va. Tu devrais aller la voir. On ne sait jamais. Tu devrais aller la voir. Non, mais tout va très bien, enfin, tout ça. Bon. Écoute-moi, ça vaut la peine, on ne sait jamais. T'es là. Bon. Une semaine plus tard, t'as appelé ta mère, tout ça, tu étais la voir. Non, j'ai appelé, tout va très bien. Écoute ce que je te dis, ça vaut la peine d'y aller, tout ça. Effectivement, elle fait pression le Rav, qu'elle fait, il a pris. Mais il avait encore une semaine, au lieu de prendre un billet pour le lendemain, il a pris pendant une semaine encore un business à terminer, une semaine plus tard. Et bien, deux jours plus tard, il est décédé. Il va le Rav Shach, je t'avais dit. On peut lui dire, écoute, je vois, vas-y, c'est l'heure. Prenez ça, en tant que conseil intelligent de la vie. Les grands, certainement il y en a qui... Le Rav Ovadia Yosef. Jamais entendu qu'il y avait Ruach HaKodesh. Jamais. Un de mes élèves, marié, et tu le vois, il est accompagné des gens. Prend une bracha et le Rav lui dit un truc. Je ne peux pas dire que c'est des choses de l'intimité entre l'homme et sa femme. Il dit, il faut que tu arranges ça. Il ne comprend pas, il sort dehors. Il dit, je ne comprends pas ce truc-là. Il veut rencontrer de nouveau. Il rentre. Et moi, il m'a demandé que ça. Tac, il faut que tu fasses. Un truc que personne au monde peut savoir. Et pourtant, il n'est pas connu pour ça. Alors, il n'y a aucun doute qu'ils ont Ruach HaKodesh, mais eux-mêmes n'utilisent pas. C'est pas comme ça qu'on tranche. On tranche d'après la Torah. D'après la Torah, parce que la Torah, c'est retourne à la volonté de Dieu. C'est le moyen de direction du monde. Le Man Malchei Rabbanan, c'est qui les rois? C'est marqué Rabbanan, Tamil Chachamim. Parce que le roi, c'est un dirigeant. Le dirigeant du monde, c'est la Torah. Quelqu'un qui fixe la Torah à Possek, il fixe comment le monde va. Et Hachem, quelque part, se subordonne sa conduite à ce que les Chachamim vont dire. Donc, tu as ces gens-là. Pourquoi ils demandent ma Torah à Kodesh? Comme aller voir un. Je sais pas moi, t'as le top niveau, tu prends un nul. Pas un nul, un moyen. D'accord? C'est un truc très dur pour nous à accepter. Le Ruach HaKodesh, il voit, donc il ne se trompe pas. Et l'autre, il ne voit pas. Il fait d'après la Torah. Ok, la Torah. C'est un manque de maturité thoraïque dont nous tous souffrons. Parce que la poudre, le Ruach HaKodesh, c'est de la poudre aux yeux. Ça touche plus. La vraie direction du monde est par la connaissance de Torah. Et ces gens-là qui sont Torah, ce qu'ils disent, c'est Dat Torah. C'est ce que Hachem pense.
Ça sert à quoi alors le Ruach HaKodesh?
Je sais pas. Il y a 30 ans, quand j'étais en train de fréquenter quelqu'un, il m'a dit que quand on dit Aïe, dans la Hamida, je ne sais plus quand c'est Rosh Hashanah ou Kippour ou Shavuot, de Keter. Rosh Hashanah? Pourquoi Rosh Hashanah?
Rosh Hashanah et Kippour.
Ouais.
Aïe, il fait longtemps, on peut demander pour.
Alors on peut demander trois choses. Ou Ruach HaKodesh, ou des enfants dans la Torah, ou la richesse.
La richesse,
ouais. Alors, je dis, je demande Ruach HaKodesh, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, des enfants dans la Torah. À quoi sert Ruach HaKodesh?
Il ne faut pas demander la Chokhmah, parce qu'avec la Chokhmah, on va pouvoir avoir des enfants, ils devront avoir un
peu. T'as compris?
Pourquoi ils ne vendent pas la Chokhmah, parce qu'avec la Chokhmah...
Non, non, c'est ces trois choses qu'on peut. C'est pas dans le choix.
Ah, richesse.
Richesse, la histoire. Ruach HaKodesh, la histoire des enfants de Tzadikim. Bezrat Hashem.
Le dernier niveau de Mesilat Yesharim, c'est Ruach HaKodesh.
Oui, mais c'est pas un but en soi. Pas un but en soi, c'est un cadeau bonus. Et... Regarde, Ruach HaKodesh, c'est une... on est enveloppé d'un souffle de pureté, de sainteté. C'est une grande proximité à Hachem. En ça, c'est valable. C'est un grand mérite. Attends, ça permet de voir des choses. Mais le fait de voir des choses, c'est pas du tout un, c'est pas du tout un bien en soi. Alors, Benson avait Ruach HaKodesh. Il a dit, vous croyez que c'est facile? Il a dit, vous croyez que c'est facile? Il a dit, il n'y a pas un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir et qui m'a dit que je sais qu'il a quoi que pour quelques semaines ou mois à vivre. Pas un jour. Et je vais dire, tout ira bien, et tout ça, c'est pas facile. Alors quand t'es cruel, t'en as rien à faire, tu dis, ok, voilà, un bracha terminé. Mais quand quelqu'un est sensible, quelqu'un, il aime Am Israël, tous les jours, voir un type, un mourant, un futur mort, ça fait Ruach HaKodesh de voir les choses. Heureusement qu'Hachem a caché ça. À quoi ça sert de voir? Il faut beaucoup s'éduquer à ça, parce qu'on a tendance à préférer le Ruach HaKodesh. Bah, ou, Hadonai, l'homme, mais...